Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié d'abord aux États-Unis sous le titre Shop Class as Soulcraft, Éloge du carburateur est un essai de Matthew B. Crawford, philosophe américain et réparateur de motos. À partir de son expérience de salarié dans des emplois intellectuels puis d'artisan mécanicien, l'auteur examine le sens attribué au travail dans les sociétés occidentales. Son propos ne consiste pas à idéaliser indistinctement les métiers manuels ni à condamner toute activité de bureau. Il conteste plutôt la hiérarchie culturelle qui associe réussite, intelligence et emploi de bureau, tandis qu'elle rabaisse les activités de fabrication, d'entretien et de réparation. Mêlant autobiographie, philosophie sociale, critique de l'organisation du travail et description technique, Crawford défend l'idée qu'un travail concret peut mobiliser jugement, responsabilité et attention. L'essai interroge ainsi l'économie du savoir. La disparition des ateliers dans l'éducation et la dépendance croissante envers des objets dont les utilisateurs ne comprennent plus le fonctionnement. Il propose finalement une réflexion sur l'autonomie pratique et sur les conditions d'une activité professionnelle réellement signifiante. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le travail manuel comme exercice complet de l'intelligence. La thèse la plus distinctive de Crawford est que le travail manuel qualifié ne se réduit jamais à une simple exécution de gestes. Réparer une moto, installer un circuit électrique ou fabriquer un objet exige d'observer des indices, de formuler des hypothèses, de connaître les propriétés des matériaux et de corriger ses décisions au fur et à mesure. Le mécanicien est confronté à une panne singulière, à l'usure d'une pièce, à l'histoire particulière d'une machine et parfois aux interventions imparfaites d'anciens réparateurs. Il doit donc interpréter une situation plutôt qu'appliquer mécaniquement une procédure. Cette intelligence est incarnée, car elle engage simultanément l'attention sensorielle, l'expérience des outils et la compréhension technique. Crawford s'oppose ainsi au préjugé selon lequel le travail intellectuel serait par nature plus complexe que le travail de la main. Il montre aussi que la séparation scolaire entre connaissances abstraites et formation technique masque les exigences cognitives des métiers. L'intérêt de cette défense est moins de sacraliser l'artisan que de rétablir une continuité entre penser et faire. Une compétence devient robuste lorsque la réflexion rencontre la résistance concrète des choses. Le diagnostic juste ne vaut pas seulement par son élégance théorique, mais par la capacité à remettre effectivement une machine en état de fonctionner. Deuxièmement, la confrontation au réel donne des critères de qualité. Dans l'atelier, le réel fournit une forme de jugement qui échappe en partie au discours organisationnel. Une réparation tient ou ne tient pas, un moteur démarre ou reste défaillant, une installation est sûre ou présente un risque. Cette sanction matérielle ne rend pas tout jugement automatique, mais elle oblige le professionnel à répondre des conséquences de son travail. Crawford y voit une source essentielle de responsabilité et de satisfaction. L'artisan peut évaluer son ouvrage au regard de standards observables, partagés avec des clients, des collègues et une tradition de métier. Cette possibilité d'auto-évaluation contraste avec certains emplois de bureau où les objectifs sont flous, mouvants ou évalués principalement par des indicateurs indirects. Lorsque la qualité ne peut plus être rapportée à un résultat identifiable, le salarié risque de dépendre davantage de l'appréciation hiérarchique. Crawford décrit alors une incertitude qui transforme le travail en terrain d'évaluation sociale permanente. Son argument ne suppose pas que toutes les tâches concrètes soient libres ou valorisantes. La chaîne de montage peut au contraire déposséder l'ouvrier de son jugement. Mais l'essai insiste sur une condition précise de l'autonomie professionnelle, pouvoir reconnaître ce qui constitue un travail bien fait et avoir une prise effective sur les moyens de l'accomplir. Troisièmement, la division entre conception et exécution comme origine de l'aliénation. Crawford relie la perte de sens au principe moderne qui sépare la conception du travail de son exécution. Dans les organisations fortement divisées, quelques personnes planifient, définissent les procédures et contrôlent les résultats, tandis que d'autres appliquent des instructions fragmentées. Cette logique a longtemps marqué l'industrie, mais l'auteur soutient qu'elle atteint aussi les emplois administratifs et intellectuels. Les salariés peuvent traiter des informations, remplir des formats imposés ou produire des livrables sans maîtriser la finalité de l'ensemble. Le problème N est donc pas seulement la pénibilité physique. Il est d'être privé de l'occasion de mobiliser son jugement sur un processus complet. L'exemple de la réparation permet à Crawford de souligner l'inverse. Le professionnel identifie le problème, choisit une démarche, agit, vérifie l'effet de son intervention et en assume la responsabilité devant le client. Cette boucle relie connaissance, décision et conséquence. La critique vise également des formes de management qui valorisent la flexibilité générale au détriment d'une expertise située. Un travailleur supposé pouvoir passer sans cesse d'une mission à l'autre peut être adaptable. Mais il risque aussi de ne jamais développer l'autorité pratique qui naît d'un savoir-faire éprouvé. Crawford défend ainsi une organisation où l'initiative et l'expertise de terrain ne sont pas entièrement absorbées par des procédures éloignées du réel. Quatrièmement, une critique de l'économie du savoir et de la dévalorisation scolaire des métiers. L'essai replace la valorisation du travail intellectuel dans une orientation éducative et économique plus large. Les jeunes sont fréquemment incités à considérer le diplôme universitaire et l'emploi de bureau comme l'unique voie de réussite, tandis que les filières techniques apparaissent comme un choix par défaut. Crawford conteste cette représentation, non parce que les études supérieures seraient inutiles, mais parce qu'elles peuvent diffuser une conception trop étroite de l'intelligence et de la mobilité sociale. La fermeture ou l'affaiblissement des ateliers scolaires symbolise, selon lui, cette perte de contact avec les objets et les techniques. Les élèves apprennent à manipuler des interfaces, mais moins souvent à démonter, diagnostiquer, fabriquer et mesurer. Cette évolution favorise une relation de consommateur à des dispositifs de plus en plus opaques, on achète, remplace ou délègue la réparation plutôt que comprendre ce qui a cessé de fonctionner. Crawford associe donc le recul des savoirs manuels à une dépendance pratique accrue. Il ne formule pas un programme nostalgique de retour à un âge artisanal imaginaire. Son point est plus exigeant: une société techniquement sophistiquée devrait donner à davantage de personnes les moyens de comprendre son infrastructure matérielle. La formation professionnelle et les pratiques de réparation deviennent alors des enjeux civiques autant qu'économiques, car elles nourrissent l'autonomie, le discernement et le respect des contraintes matérielles. En dernier lieu, réparer plutôt que remplacer comme rapport moral aux objets et aux autres, le carburateur du titre condense une réflexion plus vaste sur la réparation. Pour Crawford, remettre en service un objet N et pas seulement produire une prestation vendable. C'est reconnaître qu'une chose possède une structure intelligible, une histoire d'usage et une valeur qui ne se laisse pas réduire à son prix de remplacement. Le réparateur doit respecter les contraintes de la machine, mais aussi arbitrer entre le coût, la sécurité, les attentes du propriétaire et la possibilité technique d'une intervention durable. Cette situation engage un jugement pratique et une forme de relation morale avec le client. Le professionnel ne peut se contenter d'une promesse abstraite de service, son travail se manifeste dans un résultat dont l'usager éprouve directement les effets. L'essai oppose ce rapport à une culture de consommation où les objets sont conçus comme des boîtes noires, rapidement obsolètes et difficilement réparables. Crawford ne prétend pas que toute conservation est rationnelle ni que toute technologie récente doit être rejetée. Il attire plutôt l'attention sur ce que coûte la disparition de la réparabilité, perte de compétences, dépendance aux fabricants et éloignement de la matérialité du monde. La réparation devient ainsi un modèle de rapport attentif aux choses. Elle demande de la patience, accepte la résistance du problème et valorise la continuité plutôt que le renouvellement immédiat. En conclusion, Éloge du carburateur s'adresse aux lecteurs qui s'interrogent sur la qualité de leur activité professionnelle, aux personnes engagées dans l'artisanat, l'industrie, l'enseignement technique ou le management, ainsi qu'à ceux qui souhaitent comprendre les limites de la promesse de l'économie du savoir. Il intéressera également les bricoleurs et les amateurs de réparation, mais son ambition dépasse largement la défense des métiers mécaniques. Crawford offre des outils pour examiner une question transversale: une personne peut-elle comprendre la finalité de son travail, exercer un jugement propre et constater les effets de ses décisions. Cette grille permet de réfléchir aussi bien au bureau qu'aux ateliers, sans confondre automatiquement travail manuel et émancipation. Le livre se distingue des plaidoyers nostalgiques pour les métiers d'autrefois par son ancrage philosophique et par l'attention précise portée aux contraintes techniques. Il se distingue aussi des critiques ordinaires du monde de l'entreprise en proposant un contrepoint concret: l'expérience d'un métier ou la qualité, l'erreur et la responsabilité sont visibles. Sa position peut paraître volontairement polémique lorsqu'elle oppose les emplois intellectuels aux activités artisanales, et elle ne décrit pas toutes les réalités du travail manuel contemporain. Cette tension fait néanmoins sa force critique. L'essai oblige à réévaluer les formes de savoir négligées, à questionner l'opacité des objets et à reconnaître que l'autonomie dépend souvent d'une capacité pratique à agir sur le monde matériel. Si vous souhaitez soutenir Matthew B. Crawford, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.